C'est le peuple le plus méconnu du Moyen-Orient, un peuple pourtant multimillénaire. Les Yézidis sont persécutés depuis des siècles. Leur monothéisme mystérieux leur vaut à tort une réputation d'adorateurs du diable, considérés comme des mécréants par les djihadistes de l'État islamique.
Alors, c'est une communauté assez méconnue qui malheureusement est beaucoup plus connue maintenant à cause du massacre en règle et du génocide dont ils ont fait l'objet à partir de 2014. Lorsque Daesh, l'État islamique, a pris la plaine de Ninive, où se trouve d'ailleurs leur lieu de culte.
Yves Gély est photographe, parti sur les traces des Yézidis. Il nous montre ce peuple comme vous ne l'avez jamais vu. Eau magique, repas liturgiques, sacrifices d'animaux, les Yézidis accomplissent des rituels, comme ici. La légende raconte que s'ils réussissent à jeter un morceau de tissu sur ce rocher, leur souhait deviendra réalité. Elles sont des milliers à avoir subi des sévices des membres de l'État islamique. Longtemps considérées comme un péché impardonnable, ces femmes ont aujourd'hui le droit de revenir dans la foi après la purification. À côté de la gardienne de ce sanctuaire, sur le montant de la porte se dresse un serpent noir que les croyants embrassent. Ce reptile représente la renaissance et la sagesse, et non Satan comme le prétendent les détracteurs des Yézidis qui méprisent leur religion.
Elle est une forme de survivance de culte anté-chrétien, anté-islamique. Elle a des éléments ésotériques, d'initiation, dualistes. Il y a un principe bon, un principe mauvais. Les Yézidis révèrent un personnage qui est incarné sous la forme d'un paon. Cette croyance s'est restée un petit peu secrète, évidemment. Elle a fait l'objet assez rapidement d'une persécution en règle de la part d'à peu près toutes les religions. Ils ont pris une habitude pendant des siècles de dissimulation. C'est ainsi que les Yézidis intègrent des cultes apparemment chrétiens ou musulmans, mais c'est une manière de se protéger de l'environnement extérieur.
Plus de 3000 morts, 6800 femmes et enfants kidnappés. La plupart des Yézidis ont dû fuir leurs habitations. Aujourd'hui, ils sont entre 500 000 et 600 000, présents essentiellement au nord du Kurdistan irakien, pendant que d'autres ont fui à l'étranger. Les Yézidis sont désormais un peuple sans terre.
Bonjour à toutes et à tous. Donc pour commencer, nous faisions entendre un extrait d'un reportage de France 2 datant de novembre 2017 sur les Yézidis. Et on va parler des Yézidis notamment avec deux personnes en studio, Ama Othman, qu'on connaît bien sur les ondes de Radio Albigès. Bonjour Ama.
Bonjour.
Et Francis Clotte, membre de l'association Défense sans frontières, avocat solidaire. Bonjour Francis.
Bonjour.
Alors, donc on l'a entendu, on a fait un petit, très petit tour d'horizon de qu'est-ce que c'était que les Yézidis, donc un peuple persécuté et un peuple millénaire. On va parler plus précisément d'une personne, notamment Yézidi, qui a eu, s'est vu décerner le prix Nobel de la paix. Je crois que c'était le 5 octobre dernier, et on va être ensemble pour une heure pour développer un petit peu tous les aspects de ce témoignage. Et ce que ça veut dire politiquement. Et je vous propose justement d'entendre un extrait du Huffington Post, j'ai du mal à le prononcer, justement sur ce prix Nobel de la paix. On entend et puis on en reparle après.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2018 to Denis Mukwege and Nadia Murad for their efforts to end the use of sexual violence as a weapon of war and armed conflict.
Voilà, donc extrait ce qu'on peut trouver sur Internet. C'était le 5 octobre dernier, 2018, avec la voix de Nadia Murad, qui recevait donc le prix Nobel de la paix. Alors, peut-être revenir donc avec Francis Clotte, membre de l'association Défense sans frontières, avocat solidaire, sur comment vous avez reçu, vous, peut-être d'abord présenter l'association et ensuite comment vous avez reçu ce prix Nobel de la paix, cette annonce.
L'association Défense sans frontières est une... Défense sans frontières, Avocats solidaires, est une association de création récente, puisqu'elle a 4-5 ans d'ancienneté. Et je suis un de ses membres fondateurs. Cette association était, enfin, les membres de cette association étaient déjà fortement impliqués dans le droit international, car beaucoup de ses membres sont les avocats qui défendent les parties civiles dans une juridiction qui se trouve à Phnom Penh, qu'on appelle les CETC, Chambre extraordinaire des tribunaux cambodgiens, qui est une juridiction de droit cambodgien, mais issue, c'est l'ONU qui est à l'origine de la création de cette juridiction, qui juge, elle a été créée pour juger les Khmers rouges, qui ont, comme vous le savez, qui sont à l'origine donc, de la mort de 2,5 millions de 2,5 millions environ Cambodgiens. Donc, Défense sans frontières, avocats solidaires, enfin les avocats de Défense sans frontières, avocats solidaires, défendent les parties civiles victimes de ces Khmers rouges. Ils étaient dans le procès bien connu de Duce. Ils sont actuellement dans les procès qui mettent en cause l'ancien président du Kampuchea démocratique et qui mettent en cause l'ancien premier ministre, ministre des Affaires étrangères des gouvernements de Pol Pot. Et ils seront, puisque je crois pouvoir vous l'annoncer, ils seront dans les procès qui vont s'ouvrir, mettant en cause les chefs d'état-major et l'amiral de la flotte cambodgienne, Khmer Rouge, à l'époque de ces faits. Et aujourd'hui, donc Défense sans frontières, qui regroupe donc une cinquantaine d'avocats, qui a l'appui de plusieurs personnes. Il y a des chefs d'entreprise qui nous appuient. Il y a également les barreaux, et notamment en particulier le barreau de Paris, mais enfin plusieurs barreaux français nous appuient. Et nous intervenons en Turquie pour la défense des avocats turcs qui sont actuellement emprisonnés par l'exécutif turc et qui sont soupçonnés de terrorisme pour avoir simplement fait leur travail, à savoir la défense de Kurdes, du PKK, de membres du PKK. Le seul fait de faire son métier en Turquie est aujourd'hui, on vous considère, à partir du moment où vous faites votre métier, comme terroriste vous-même. Et actuellement, nous défendons une cinquantaine d'avocats devant les juridictions. Enfin, nous sommes présents, parce qu'il s'agit, nous ne plaidons pas dans ces affaires-là, mais nous sommes présents, et évidemment pour impressionner un peu les magistrats de voir que la communauté internationale des avocats est représentée et présente dans les procès qui mettent en cause nos confrères turcs. Et nous nous sommes également intéressés au problème des yézidis lorsque nous avons appris ce qui s'était passé le 3 août 2014 et la tentative de génocide, enfin le génocide qui a été perpétré par l'État islamique à l'encontre de cette population yézidi. Si j'ai employé le mot génocide, c'est parce que le génocide se caractérise, est en fait la volonté, c'est une intention de détruire un peuple pour des raisons ethniques, religieuses, raciales. Et là, on voit bien que c'est pour des questions religieuses que Daesh a essayé de tuer cette population qui vivait donc en Irak tranquillement, c'était des laboureurs, c'était des forgerons, c'était des artisans,
des paysans.
Et donc Daesh a voulu exterminer cette population, l'exterminer par les armes. On a parlé tout à l'heure, donc vous avez évoqué le chiffre de 3000 morts. Mais certainement davantage, oui. Parce que lorsqu'on entend les témoignages des rescapés, ils nous disent que dans leur famille, il y a eu trois frères tués, leurs parents âgés également tués, puisque Daesh systématiquement tuait les personnes âgées. Les hommes qui ne voulaient pas se convertir étaient également tués. Et un moyen aussi d'extermination, c'est par le ventre des femmes, puisque le ventre des femmes, c'est la récompense des guerriers. C'est aussi le moyen d'humilier l'adversaire, les hommes du camp d'en face qui n'ont pas su protéger leurs femmes. Mais c'est aussi le moyen, en semant la petite graine, d'exterminer l'origine de la femme, l'origine de l'ethnie enfin, ou de la communauté religieuse de la femme. C'est pour ça que j'ai employé le mot de génocide.
Oui, je pense que c'est ça le génocide, en fait. C'est détruire une culture, une religion, et pour un peuple qui est vraiment pacifique dans cette région, ils n'ont rien fait de mal à personne, ils sont connus pour ça. Et à l'origine, ils disent que à l'époque de révolution islamique, c'est la seule minorité religieuse dans la région, ils n'ont pas accepté l'idée d'islam. Ils ont resté tant qu'ils sont, comme ils l'ont gardé, l'ont protégé jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'ils ont cette haine, ça renouvelle chaque fois. Chaque fois qu'il y a l'occasion, ces petites minorités, c'est pas la première fois qu'il y a, pas le génocide, mais l'attaque, parce qu'ils l'ont fait, rappelle-toi, en Grèce, voilà.
En 2007, ouais. Il y a eu 500 morts. Avec deux voitures béliers qui ont tué 500 yézidis. C'était déjà les prémices de ce qui s'est passé, de l'horreur.
Plusieurs fois, ils ont subi par les violences, etc.
Oui, vous parlez de plusieurs fois, mais en effet, parce que bon, c'est un peuple, il faut le rappeler, donc il y a 6778 ans. Leur calendrier remonte à 6778.
C'est ça.
Donc c'est bien plus ancien que le calendrier chrétien, que le calendrier musulman. C'est,
ils disent que, ça revient à 4750 ans avant le chrétien. Le décalage, c'est 900 ans entre les chrétiens et les yézidis. Après, avec les juifs, 5329 ans, donc ils ont toujours l'avance, et avant l'islam, bien sûr, bien avant l'islam.
C'est une religion très ancienne. C'est la religion, semble-t-il, des anciens Mèdes.
Qui vivaient
en Iran, ce qui est aujourd'hui l'Iran.
Tout à fait.
Qui vivaient en Perse.
Ils sont installés dans la vallée de la Liche.
Et c'est là que se trouve le temple dans lequel, est enterré le cher Hadji, qui, au XIIe siècle de notre ère, a réformé un peu la religion yézidi pour en effet lui donner les apparences d'une religion autre, se rapprochant un peu de la religion chrétienne et de la religion sunnite, de l'arabe sunnite, pour un peu protéger le peuple. En effet, la volonté, les apports d'autres religions ont été faits pour se protéger, pour protéger la communauté yézidi. Car cette communauté a, depuis qu'elle existe, il nous a été déclaré qu'elle avait été elle avait fait l'objet de 76 tentatives de disparition.
Tout à fait, oui. Ouais. Et après, les Yézidis, ils le considèrent à l'époque, ils considéraient comme les gens qui plus proches le diable que le dieu. Surtout ça qui est le seul.
Oui, alors en deux mots quand même, la religion, c'est ils adorent un dieu unique, ils sont monothéistes, mais pour eux, c'est un dieu qui a créé l'univers, qui a créé le monde. Et ce Dieu a envoyé sept archanges sur la terre, dont Malek Taous, qui est représenté par un paon, et c'est le chef des archanges. Et Malek Taous a été envoyé sur terre pour gérer la terre, pour organiser la terre. Dieu n'a fait que créer le monde. Et c'est Malek Taous qui gère l'organisation du monde sur terre. Il est représenté par un paon, Et en effet, ces gens-là se tournent vers le soleil lorsqu'ils prient. Ils rejettent la couleur bleue. Ils ne mangent pas certains mets. Et pour ces raisons-là, et surtout parce qu'ils n'étaient ni musulmans ni chrétiens, ils ont fait l'objet de tentatives d'élimination de la part
d'autres religions.
Absolument. C'est la raison aussi pour laquelle ce peuple est complètement dispersé dans le monde. C'est pour ça qu'il y a une diaspora très importante. Ils ont dû fuir. Beaucoup se trouvent en Géorgie, en Arménie.
Il y a, je te dis le chiffre exact, 650 000, 700 000 en Irak. Après, tu as 70 000 en Syrie, 36 000 en Arménie, 100 000 en Allemagne. Après, entre 13 et 14 000 en Géorgie, et je pense en Amérique aussi, non ? Aux États-Unis ?
Au Canada et aux États-Unis. En gros, il y a 1 200 000 yézidis dans le monde, la moitié est en Irak, ou était en Irak avant le 3 août, le fameux jour du 3 août 2014.
Il en reste encore, ils ne sont pas partis, ils souhaitent de partir, mais bon, ce n'est pas aussi facile.
C'est-à-dire ils ont peur, ils se sentent menacés, parce qu'ils voient parfois dans les personnes qu'ils croisent, même aujourd'hui, des gens qu'ils reconnaissent pour les avoir persécutés dans les jours qui ont suivi l'invasion du 3 août 2014.
Tout à fait. Et souviens-toi, là, en Grèce, il y a des familles qui nous ont dit on ne peut pas parler maintenant parce qu'on a déjà la famille là-bas sur place.
Oui, et on a peur que cette famille, subisse des tortures.
Surtout à moi, ils m'ont dit il ne faut pas publier les photos, tout ça, parce que ça risque de poser le problème à nos familles en Irak.
D'ailleurs, je dois dire que Défense sans frontières, Avocat solidaire, est intervenu pour recueillir des témoignages, en effet, dans des camps en Grèce, c'est pour ça que l'on parle de la Grèce, et également en Allemagne, avec la participation de l'Union des Yézidis de France et de son président, Vitali Nabiev. C'est donc également l'appui de cette association des Yézidis de France que Défense sans frontières a pu mener son action en Grèce et en Allemagne. Et donc, énormément de témoignages ont été recueillis. Et si nous sommes aujourd'hui, si nous avons, saisi l'occasion de la nomination du prix Nobel, de l'attribution du prix Nobel de la paix à Nadia Mourad, c'est parce que pour nous c'est un espoir, c'est l'espoir qu'enfin va pouvoir être engagée une action judiciaire à l'encontre des assassins de ce peuple.
Pour enfin que la justice soit rendue.
Pour que justice soit rendue, parce que de tous les témoignages que nous avons recueillis, se terminer, qu'attendez-vous de nous ? Telle était la question que l'on posait aux différents yézidis que nous avons rencontrés, et tous nous ont dit qu'une action soit engagée contre Daesh, contre les assassins de nos parents, les assassins de nos frères, les assassins de nos enfants, Et de nos femmes.
Je rappelle juste pour les auditeurs qu'on est toujours avec Francis Clotte, membre de l'association Défense sans frontières, avocat solidaire, et Ama Othman. Donc on a parlé de ces témoignages que vous avez recueillis dans plusieurs pays. On a vu donc que Nadia Mourad avait eu le courage de témoigner, mais on sait que pour beaucoup c'est pas si simple. On a parlé des yézidis exilés. Justement, est-ce que dans leur demande de justice, est-ce que vous arrivez à porter une plainte, ou est-ce que c'est plus compliqué, justement, on peut l'imaginer, avec les éventuellement des peurs qui peuvent se présenter?
Alors, si vous permettez, je vais vous résumer un témoignage avant de répondre à votre question. Je vais vous résumer un témoignage que nous avons recueilli en Allemagne. C'est le témoignage de Sipan, qui est âgé de 23 ans, et le témoignage préalable de son mari, Jamal, qui est âgé de 34 ans. Alors, je commence par le témoignage de Jamal. Voilà ce qu'il nous a déclaré. Il habitait dans un village du Sinjar, Kocho. Il a été averti de l'attaque de Daesh par les gens d'un village voisin. Il est parti avec son épouse qui était enceinte et 4 autres familles dans la montagne du Sinjar et ils ont été rattrapés par Daesh. Les fameux véhicules avec le drapeau noir, les fameux 4x4 avec le drapeau noir. Séparation des femmes et des hommes, portables confisqués, femmes et enfants enfermés dans un hangar. Les hommes ont été amenés à Tel Afar. Ils ont été comptés, on leur a donné un peu d'eau, mais pas de nourriture. Ils ont été regroupés tous ensemble, ils étaient 90. 15 membres de Daesh environ leur ont tiré dessus à la Kalachnikov et à la mitraillette. Jamal a été blessé à la jambe. Il est tombé face contre terre. Les blessés ont été achevés au pistolet. Un homme a tiré sur sa nuque et il nous montre, lorsque nous l'avons rencontré, sa large cicatrice. Les hommes de Daesh criaient « On va tous vous tuer !» Puis ils sont partis. Jamal n'a bougé qu'à la nuit. Il s'est retrouvé vivant avec 6 autres personnes sur les 90. Ils sont partis dans la montagne, lui avec ses balles dans la tête et dans la jambe. Ils ont marché plus de 50 km et par des voisins qu'ils ont rencontrés, ils ont été un peu nourris. Il a reconnu parmi les membres de Daesh des gens qui habitaient la ville de Tel Afar. Il parlait turkmène. Et puis il nous raconte comment ils ont pu ensuite être évacués de la montagne de Sinjar par le PKK et les combattantes du PKK qui ont ouvert un couloir humanitaire au nord de la montagne Sinjar jusqu'à Zako. Et ensuite, donc, il a rejoint, ce Jamal a rejoint l'Allemagne après un passage dans les camps en Turquie et en Grèce. Et il nous a ouvert la porte d'une pièce de son logement, dont 2 murs sont remplis de photos. Il nous a précisé que la plupart de ces gens étaient morts et qu'il continuait ainsi à vivre avec eux. 3 de ses frères, nous a-t-il dit, sont morts, ainsi que ses parents. C'est pour cela que tout à l'heure, lorsqu'on a évoqué le nombre de 3000 tués, ça me laisse un peu perplexe. Moi, je pense qu'il y en a bien plus, puisque tous les gens que nous avons rencontrés nous ont dit que dans leur famille, il y avait eu des morts. Des victimes de Daesh. Quant à son épouse, Sipan, par exemple, qui a confirmé donc le début de ses propos, elle est restée enfermée dans le hangar jusqu'à la nuit avec une centaine de femmes et d'enfants. Ils ont été amenés à Solak, puis à Tel Afar. Femmes et enfants ont été tapés à plusieurs reprises sans raison. Sa fille, alors âgée de 2 ans, n'arrêtait pas de pleurer tant elle avait peur. Le groupe est resté enfermé plus de 15 jours dans une école de Tel Afar. Les jeunes filles entre 15 et 20 ans ont été amenées. Et l'on sait ce qu'elles sont devenues. C'est l'histoire de Nadia Mourad.
Voilà. J'aimerais bien qu'on revienne sur Nadia Mourad, qui était parmi les femmes qui étaient élevées, elle a subi quand même des violences sexuelles et par plusieurs Daesh.
Bien. Il faut savoir que dans les villes occupées par Daesh, de l'État islamique, il y avait un marché aux esclaves. Les adolescentes, à partir de 10 ans, les adolescentes et les femmes jeunes étaient vendues sur le marché aux esclaves. Et il y avait des guerriers de Daesh qui, bien sûr, les achetaient, ils se les revendaient entre eux. Il y avait aussi des étrangers qui venaient acheter, des Syriens, des gens d'Arabie Saoudite,
du Koweït,
du
Qatar.
Marché aux esclaves.
Ouvert à tout le monde.
Et Nadia Mourad a pu s'échapper, en profitant d'ailleurs de la venue dans la ville où elle était retenue. Du chef de l'État islamique, el-Baghdadi. Donc il y avait une certaine effervescence pour l'arrivée du chef suprême, el-Baghdadi, oui. Mm. Oui. Et profitant de cette effervescence qui fait que l'attention des gens qui la gardaient s'était un peu relâchée, elle a pu, et avec l'appui d'une famille musulmane, nous a-t-elle dit. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas mettre mettre tout le monde dans le même sac.
Tout à fait, ouais.
Elle a été donc libérée et elle a pu s'enfuir à Mossoul et ensuite rejoindre sa sœur en Allemagne.
Tout à fait. Mais après, elle a eu le courage quand même de raconter tout ça dans le monde entier, qui passait à la télévision, la radio. Voilà. Et c'est quand même formidable, ce courage de cette femme.
Oui, car ce n'est pas facile pour une femme d'expliquer qu'elle a été violée, et violée plusieurs fois, certainement, enfin, pour la plupart. Mmh. Et il y a un autre problème, c'est celle des femmes qui sont revenues enceintes. Ce qui pose un problème aussi d'intégration, enfin c'est un problème extrêmement délicat, c'est celui de l'intégration dans la communauté yézidi d'une femme qui peut être enceinte
d'un
terroriste Daesh. Voilà. Donc il y a vraiment un problème là extrêmement délicat. Des dégâts psychologiques extrêmement importants.
Oui,
il y a une fragilité de ces femmes. C'est pour ça qu'arracher le témoignage d'une femme qui a subi ces maux est quelque chose d'extrêmement délicat. Et pour tout dire, je ne les ai pas recueillis personnellement, ce sont mes consoeurs, avocates, femmes, qui ont pu recueillir quelques témoignages semblables à ceux de Nadia Mourad.
Et après, y avait aussi qu'à un moment donné, la terroriste Daesh, elle arrachait les bébés dans le bras de la femme yézidi. Et jusqu'à présent, la maman a fait la recherche et elle n'a jamais retrouvé. Voilà. Il y en a plusieurs comme
oui,
ça.
Oui, j'ai un témoignage là, dans les documents que j'ai apportés, j'ai un témoignage, en effet, d'une dame qui a perdu son bébé de 2 ans, qui lui a été arraché et qu'elle n'a jamais plus revu. Elle-même, donc, ayant subi tous les maux que nous évoquions à l'instant.
On précise juste que, en plus de ce prix Nobel de la paix donc décerné à Nadia Mourad, en 2016, Nadia Mourad et Lamia Hadji Bachar avaient déjà reçu le prix Sakharov, prix pour la liberté de l'esprit, décerné par le Parlement européen. Donc ça avait été aussi l'occasion de parler de ce problème-là. On va faire une petite pause musicale, peut-être.
Oui, juste par rapport à ce que tu viens de le dire là, Nadia Mourad, elle est devenue quand même l'ambassadrice de l'ONU depuis, je pense, il y a plus d'un an, non ?
Mmh. Alors, je vous propose de faire une petite pause musicale aux couleurs kurdes et on revient ensuite, donc toujours avec Francis Klot et Ama Othman pour parler de cette actualité.
Just as in the beginning,
J'aimerais bien rappeler juste un petit moment, oui, parce que le 3 août, en fait, le 3 août à Sinjar, c'était ces génocides ou massacres.
3 août 2014, en précis.
2014, pardon. Oui. Et ce peuple s'est réveillé dans la panique et le fracas des armées de Daesh. Et j'aimerais bien savoir un petit peu plus ce qui s'est passé ces jours-là, exactement.
Dans la nuit du 3 au 4 août, les premiers villages... Alors, d'abord, précisons que Sinjar est une province qui se trouve au nord-ouest de l'Irak, dans le Kurdistan occidental. C'est une...
Proche de Mossoul, en fait.
C'est à 100 km de Mossoul, ouais. Et c'est à 100 km de Raqqa aussi.
Tout à fait. Hein.
Et donc, cette province... est bâti, enfin les villages et la ville de Sinjar sont bâtis autour d'une montagne, les monts de Sinjar, montagne bien sûr pelée, avec une végétation extrêmement réduite, qui est une montagne dont le sommet maximum est à 1465 mètres, je crois. Alors, dans la nuit du 3 au 4 août, Daesh...
3 au 4 août 2014,
Daesh est arrivé avec des armes lourdes, et a commencé à bombarder et à tirer sur les villages situés le plus au sud de cette province. Alors déjà, semble-t-il, des témoignages recueillis, depuis plusieurs jours, des gens de Daesh venaient en demandant aux habitants de ces villages de se convertir. Les gens de ces villages connaissaient d'ailleurs les gens qui venaient leur demander de se convertir à l'islam. C'était souvent des Arabes, enfin des vivant dans des villages voisins qu'ils avaient côtoyés toute leur vie, dont même ils cultivaient parfois les terres.
Ensemble, hein, ouais,
ils travaillaient ensemble.
Tout à fait.
Mais jusqu'alors, donc, ils avaient refusé et les choses étaient restées là. Mais dans la nuit du 3 au 4 août, Daesh a bombardé les villages au sud. Le bombardement a duré en général, de façon générale, on a les témoignages recueillis disent entre 1h du matin et 7h du matin. Et à 7h du matin, Daesh, qui avait pris les quelques armes qui lui restaient, qui leur restaient, car jusqu'alors, Daesh était protégé par les Peshmerga de l'actuel président du Kurdistan, Barzani. Du Kurdistan. Et pour des raisons, une raison pour l'instant non expliquée, ces Peshmerga s'étaient retirés avec l'armement lourd dont ils disposaient, laissant finalement les populations yézidis avec des armes légères face à Daesh. Donc Daesh a pris petit à petit tous les villages donc, au sud de la montagne Sinjar. Au petit matin, les gens valides qui avaient combattu sont montés sur des camionnettes, les voitures qu'ils avaient, et avec leur famille, avec des voisins, en prenant le peu de richesses, les bijoux des femmes, sont partis en direction de la montagne au nord, et ils ont vécu 7 jours dans la montagne avec très peu de nourriture et très peu d'eau. En fait, ils nous disaient qu'ils avaient une capsule d'eau, un bouchon d'eau, enfin une capsule d'une petite bouteille d'eau pour boire chacun, chaque jour.
Personne, ouais.
Et dans cette montagne, ils ont été poursuivis par Daesh.
À l'époque, il faisait très chaud, très très chaud. Le mois d'août, Irak...
Épouvantable. Ouais, épouvantable. Et petit à petit, donc, alors Daesh a bien sûr, comme nous le disions tout à l'heure, tuer les vieillards qui étaient restés, qui n'avaient pas pu fuir, les handicapés qui n'avaient pas pu fuir, les femmes qui n'avaient pas pu fuir et qu'ils ont donc gardées, comme on l'exposait tout à l'heure, pour leur faire ce que l'on disait tout à l'heure. Et ils ont poursuivi donc les gens dans les montagnes. Ces gens-là sont montés de plus en plus haut et puis ils sont descendus de l'autre côté de la montagne. Mais Daesh, entre-temps, avait contourné la montagne par Mossoul, par la droite, si je puis dire, par l'est et par l'ouest, de telle sorte que la montagne était entièrement encerclée par les gens de Daesh. Et ce sont les combattants du PKK, de l'YPG, l'YPG, qui est venu de Syrie, qui ont ouvert une route entre la Syrie et l'est de la montagne Sinjar, qui ont ouvert une route au nord, ce qui a permis aux gens qui étaient dans la montagne de descendre par cette route et par cette route rejoindre la Syrie et de là soit revenir au Kurdistan, soit repartir en Turquie. Voilà ce qui s'est passé avec donc des milliers de morts. On parle lors de l'exode. Rien que lors de l'exode, on dit que 600 civils, parce que c'est des populations civiles, c'est pour ça que, tout à l'heure j'ai oublié de le dire, c'est pour ça que le crime de génocide peut s'appliquer, parce que ce sont des populations civiles qui ont été tuées. Et donc on parle de 600 civils qui ont été massacrés et des centaines qui ont été enlevés entre le 3 et le 5 août.
Peut-être préciser, en tout cas l'article Wikipédia nous le précise, que les forces internationales là-dedans ont joué aussi un rôle, avec notamment des raids aériens. Cependant, la coalition qui a agi à ce moment-là se retrouve quand même face à de nombreux dilemmes, puisque ne reconnaissant pas les YPG et le PKK comme organisation légale, elle envoie des armes uniquement au Peshmerga, et du coup là c'est un petit peu le YPG se débrouiller tout seul.
Oui, mais là encore, toutes les personnes yézidis que nous avons rencontrées, toutes remercient vivement les combattants et combattantes. Moi, j'étais très surpris parce qu'ils nous le précisaient à chaque fois, de l'YPG. Voilà.
Oui, Sharavanan en kurde, pour la femme combattante.
Alors tout à l'heure, vous m'avez posé une question à laquelle je crois ne pas avoir répondu.
Oui, je vais resituer le contexte. Je rappelle juste pour les auditeurs qu'on est toujours avec Francis Clotte, membre de l'association Défense sans frontières, avocat solidaire à l'invitation de Hama Othman. Et donc tout à l'heure, on parlait de recueil de témoignages que votre association a fait. Des témoignages qui, on l'a dit, mettent en cause Daesh, les combattants de Daesh. Des plaintes, le but de l'association, j'imagine, que donc c'est de porter des plaintes, ces plaintes devant un tribunal international. Il y a peut-être des freins à ça. Quels sont-ils et comment on peut essayer de les dépasser?
Oui, le problème est extrêmement complexe. Lorsqu'on parle de droit international et de juridiction internationale, on pense tout de suite à la Cour pénale, au tribunal pénal international qui siège à La Haye et qui a été créé en 1998 par le traité de Rome, et qui est rentré en fonction en 2002. La difficulté, c'est que sur les 193 pays qu'il y a dans le monde...
Et le traité de Rome, c'est rapidement, c'est quoi exactement?
C'est une convention internationale à laquelle 123 pays ont adhéré, C'est donc un traité, c'est un traité signé par 123 pays, enfin signé par plus de 123 pays, mais pour que le traité soit mis en application à l'intérieur du pays, il faut qu'il soit promulgué. Or, les États-Unis ont signé le traité, par exemple, mais ne l'ont pas promulgué, de telle sorte que les États-Unis ne sont pas justiciables. Les Américains ne sont pas justiciables en principe du tribunal pénal international. C'est une juridiction qui met en cause non pas des États, ça c'est la compétence de la Cour de justice européenne, mais qui met en cause des individus. C'est pour poursuivre des individus qui ont commis un crime de guerre, un crime contre l'humanité, un génocide. Et depuis 2016, une agression contre une communauté située dans un autre État. C'est la raison pour laquelle, c'est sur cette base d'agression d'ailleurs, la Birmanie n'a pas signé le traité de la Convention de Rome. Mais on a considéré que la communauté musulmane qui a été les Rohingyas, qui a fui au Bangladesh a signé la Convention. Donc on a considéré que le fait d'avoir passé la frontière, puisque les militaires birmans poursuivaient cette population, le fait de les avoir obligés à passer la frontière et à rentrer dans le pays voisin, qui lui est signataire, comme je le disais, de la Convention, constitue un acte d'agression.
D'accord.
Donc l'agression également fait partie des crimes qui peuvent être poursuivis depuis 2016. Ça. Mais à l'origine, c'était uniquement crime de guerre, crime contre l'humanité et génocide.
Ça va être compliqué pour les Yézidis, puisque l'Irak, j'imagine qu'elle n'avait pas signé.
L'Irak n'a pas signé.
La Turquie n'a pas signé non plus. Alors voilà. Là, comment vous faites alors?
C'est bien ça la difficulté. Alors, il faut savoir que le procureur près de la cour d'appel, du tribunal pénal international, peut être saisi, soit par les États membres, bon, en l'occurrence, ça ne pourra être le cas, puisque les États membres, comme on le disait, ne sont pas signataires de la Convention de Rome. Ils peuvent être poursuivis, et ils peuvent être saisis également par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et à ce jour, les chrétiens d'Orient, le problème des chrétiens d'Orient est porté devant le procureur pénal international de La Haye sur saisine du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais à ce jour, pour l'instant, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas saisi le procureur du tribunal pénal international sur l'affaire des Yézidis. Il semblerait qu'il y ait opposition de la Chine et opposition de la Russie. Nous n'en savons pas davantage, parce que le conseil de surveillance a été lui-même saisi. C'est une magistrate française qui a largement enquêté sur la question, et elle a déposé son rapport au mois de février 2018. Il s'agit de Catherine Marchi-Huel qui a déposé un rapport. Mais pour l'instant, donc, ce rapport est resté lettre morte, puisque le Conseil de surveillance n'a pas saisi le procureur. Alors, le procureur peut lui-même se saisir.
D'accord.
C'est là ce qui est extrêmement intéressant. D'ailleurs, dans l'affaire des Rohingyas que j'évoquais à l'instant, je crois que c'est le procureur pénal international qui s'est saisi. Et faire valider ensuite la saisine de la Cour par ce qu'on appelle la chambre, par les juges d'instruction qui sont auprès de la Cour. Ils transmettent le dossier au juge d'instruction, et les juges d'instruction considèrent la chambre préliminaire, siègent dans ce qu'on appelle la chambre préliminaire. Si la chambre préliminaire du tribunal pénal international considère que la saisine est valable, donc il peut y avoir des poursuites engagées contre certains assassins. Pour l'instant, nous sommes un peu bloqués. Alors, au niveau des États, comme la France, comme la Belgique, comme le Danemark, comme l'Espagne, comme l'Allemagne, comme le Canada, il existe aussi une possibilité de saisine qui s'appelle la compétence universelle. Normalement, un État, au point de vue de la justice, au point de vue de, est compétent s'il s'agit d'un crime qui s'est commis sur son territoire, si c'est un crime qui a été commis par un de ses nationaux ou contre un de ses nationaux, ou si c'est un crime grave qui porte atteinte à la sécurité du pays. Donc voilà les quatre cas dans lesquels un État est normalement compétent. Mais il y a une dérogation. Il y a une dérogation si un assassin étranger, syrien, irakien, est reconnu en France, se retrouve en France, la France, au nom du principe de compétence universelle, peut se saisir pour poursuivre cet assassin. C'est sur ce fondement-là qu'à l'époque, le général Pinochet, ex-président du Chili, avait été poursuivi dans un premier temps en Angleterre, mais la politique s'en est mêlée, et donc après avoir été retenu quelques semaines dans un hôtel anglais, il a été relâché, il est reparti dans son pays, mais ensuite a été, en revanche, avec l'Espagne a été plus courageuse que l'Angleterre, et l'a retenu lorsqu'il est venu en Espagne. De même, rappelez-vous, Moshe Yadam, le président d'Israël, avait fait l'objet de poursuites au nom de la compétence universelle par la Belgique, par l'État belge, avant que des pressions internationales fassent que la Belgique abandonne les poursuites engagées. Donc c'est évidemment très politique, l'usage de la compétence universelle pour se saisir contre des dirigeants ou contre, mais pas que des dirigeants, hein, ça peut être vraiment des gens qui ont participé au génocide, qui peuvent être ainsi poursuivis s'ils se trouvent en France par l'État français. Donc il y a des moyens de poursuite. Et enfin, il y a le dépôt de plainte, la saisine par des yézidis qui ont été victimes, qui se trouvent en France. Et pour ne rien vous cacher, il y a actuellement un dépôt de plainte qui a été déposé auprès du parquet de Paris par des avocats de Défense sans frontières.
Il y a combien de familles yézidis en France ? On ne sait pas. Mais dans quelle région plutôt ? La plupart.
Beaucoup se trouvent au nord de la France, parce qu'ils ont de la famille en Allemagne, au nord et à l'est de la France, dans la région de Strasbourg, dans la région d'Amiens, dans la région de Compiègne, voilà, beaucoup se trouvent au nord de la France. Mais l'autre jour, j'ai rencontré une de mes consoeurs de Saint-Gaudens qui me disait qu'à Saint-Gaudens, il y avait une famille yézidi.
Même à Albi, il y en a. Il y a une famille. Récemment, il y a une famille à 10 jours qui est arrivée à Albi. Après, bien avant, il y a deux, trois familles yézidi de Georgiennes, oui, qui sont là actuellement. Ça fait un moment qu'ils sont là.
Oui,
parce que
la Géorgie,
travaillent ici, elle s'installer à Albi.
Et oui, parce que la Géorgie elle-même est un des États qui, à un moment, a été frappé par des crimes dont les gens ont été génocidés, et ça a permis d'obtenir à beaucoup de Géorgiens l'asile politique dans notre pays. Et d'ailleurs, je parlais de l'association effectivement des Yézidis de France.
Oui.
Je crois savoir que Vitali Nabiev est d'origine géorgienne.
Tout à fait. Le monsieur qui était avec nous quand on est parti. Donc je rappelle, je suis parti
comme interprète.
J'avais l'honneur de participer dans l'émission recueillir les témoignages avec les Yézidis en Grèce dans le camp de réfugiés. Et c'était vraiment une expérience vraiment très très riche au niveau de tout ce qu'ils ont vécu, les témoignages, etc. Très bien. Donc c'est pour ça qu'on a revenu sur l'association de la Yézidi en France,
voilà,
qui est actuellement à Paris. Ils font pas mal quand même d'activités. Ils ont même rencontré M. Hollande et Macron, et ils sont très actifs. Hein.
C'est pour ça que, à notre niveau, avocat de Défense sans frontières et passionné par cette cause-là, ce que nous espérons, c'est que ce prix Nobel de la paix permettra de relancer, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis présent avec vous ce matin, permettra de relancer, enfin, d'interpeller le monde judiciaire et d'interpeller enfin, l'opinion publique pour que cette action ne reste pas impunie, que ces actions-là ne restent pas impunies.
Que soit la justice, que soit.
Car ce serait décevoir les victimes. Ce serait décevoir les victimes si rien n'était fait et si on mettait une chape de plomb sur ce problème. Alors je sais bien que dans le monde, il y a tellement de causes injustice, qui mériteraient d'être.
Il y a tellement injustice que. Voilà. Enfin, moi je pense qu'aussi, il y a un problème de peuple. Comme Yazidi, il fait partie du peuple kurde, mais ces blocages, ils deviennent. Quelque part par rapport à ça. Puisque la cause kurde jusqu'à maintenant, vraiment, réellement, n'a pas été étudiée au niveau international. Donc, puisque c'est nous, enfin les Yézidis qui demandent l'injustice, et le peuple kurde, c'est derrière, il dit pourquoi pas, on ne parle pas de totalité du peuple kurde. Dans le peuple kurde, il y a aussi Yézidi, il y a Zoroastre, il y a aussi d'autres ethniques, religions qui, il faut leur régler ces problèmes. Ça va être hyper, très très compliqué, mais un jour... Inch'Allah.
Inch'Allah.
Merci, on arrive à la fin de cette émission. Je rappelle quelques références. Le site internet de l'association Défense sans frontières, avocats solidaires, c'est www.defensesansfrontieres.org. On y trouve pas mal d'informations. Le site internet de l'association des Yézidis de France, c'est www.yezidi-france.fr et on peut retrouver notamment pas mal d'informations sur le yézidisme sur une page Wikipédia qui est très complète. On a aussi une page Wikipédia consacrée à Nadia Mourad où on peut retrouver ses témoignages, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle devient en tant qu'ambassadrice. Peut-être un mot de la fin, Ama ou Francis ?
Écoutez, moi je vous remercie de m'avoir invité à cette matinée consacrée aux Yézidis. Comme je vous l'ai indiqué, ce serait rendre justice à un peuple que d'engager une action contre leurs tortionnaires.
Merci Francis pour ta présence aujourd'hui parmi nous avec la radio LBGS. Merci à toi Will et à bientôt comme tu veux. Je suis là, tu m'appelles pour donner un coup de main.
Si j'ai des nouvelles, si.
Pour la prochaine émission.
On va se quitter en musique avec Shivan Perwar, je te prononce bien, Anna ?
Oui, tout à fait. Oui.
Et puis donc, à une prochaine fois sur les ondes de Radio LBGS.
Eyvah bülbü evin dara bülbü Haber hatemenli sereş hadi Agadar bumli ser evin adi Eyvah bülbü evin dara bülbü Bülbül hemmak etnak şine yübü Bülbül hemmak etnak şine yübü Le dodmam umru reşi Le dodmam umru reşi Le dodmam Delale evinde rapısman Zeriye evinde rapısman Dodmamda ikamet etmiştim hane Dikiridi gazil berdestane Dodmamda ikamet etmiştim hane Dikiridi gazil berdestane We chawa be sevra me kurdane. We chawa be sevra me kurdane. Le dodmam, le dodmam, umru reshi. 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 Le dodmam, le dodmam, le dodmam, zeriye evindar apısmam. Tu bir şiirin başı var, linişti manadım be hezar yara. Dodmam tu bir şiirin başı var, linişti manadım be hezar dila. Bu azadi dilu canım kurban, bu rızgari divim aha gora. Le dodmam, le dodmam, umru reşi. Le dodmam, le dodmam, umru reşi. Le dodmam, le dodmam, le dodmam. Le dodmam, le dodmam, le dodmam. Zeriye evindar apısmam. Zeriye evindar apısmam.